est une rediffusion.
RFI, grand reportage.
On a quitté notre pays pour venir ici, pour chercher une vie meilleure. Parce que dans notre pays, nous souffrons.
À Moria, sur l'île grecque de Lesbos, près de 14 000 demandeurs d'asile s'entassent dans un espace prévu pour 3 000 personnes. C'est le plus grand camp de réfugiés d'Europe. Il est totalement saturé. En cause, le regain de réfugiés en provenance de Turquie par la mer depuis l'été. Le camp est au bord de l'embrasement. Un incendie volontaire a tué une femme en septembre. Moria, le camp malade de l'Europe, c'est un grand reportage de Joël Bronner.
I'm so tired.
Je ne pouvais plus supporter la situation dans mon pays, elle m'épuisait.
Take that anymore, this situation.
Je suis ici pour un avenir meilleur. Je suis jeune, mes amis ici sont jeunes. Ce n'est pas la vie que nous méritons.
They don't deserve this life.
Nous avons quitté notre pays pour une vie et un avenir meilleur. Et nous voilà ici, en Grèce, au camp de Moria. Mais comme vous pouvez le voir, nos conditions de vie ici ne sont pas brillantes.
Tous, les demandeurs d'asile du camp de Moria, ce sont les sirènes d'une vie meilleure qui les ont poussés à prendre le large. Cet espoir les a conduits jusqu'en Turquie, puis en Grèce par bateau. Près de 14 000 personnes se retrouvent aujourd'hui dans un camp de 3 000 places, inadapté et saturé, où la vie meilleure, pour l'instant, n'est pas au rendez-vous. Sur l'île de Lesbos, la réputation du bourg de Moria est à présent indissociable du camp de réfugiés qui porte son nom. Il y a une éternité, c'est-à-dire avant la crise migratoire de 2015, ce gros village tranquille de plus d'un millier d'habitants était davantage connu pour abriter les vestiges d'un imposant aqueduc romain. Une prouesse architecturale antique, située à moins de 10 km de Mytilène, la principale ville de l'île. Mais aujourd'hui, à Moria, ce sont les ruines de vies humaines qui sont au cœur de l'histoire en marche. Au cœur d'un paysage vallonné, parsemé d'oliviers, le camp de Moria se situe à 20 minutes à pied du village. Sur la route, alors que le camp apparaît au loin, deux Afghans de 16 ans, la sueur au front, portent ce matin-là une lourde palette en bois, du type de celle que les supermarchés utilisent pour le transport de marchandises. Cette palette, ils ont l'intention de s'en faire un lit. Depuis leur arrivée, il y a une semaine, tous deux dorment dehors, faute de place dans le camp surpeuplé.
Cette situation est très difficile pour nous. Nous sommes mineurs et nous n'avons nulle part où dormir. La nuit dernière, la pluie a été intense. Donc ce matin, on a récupéré cette palette dans la rue. Parce qu'être obligé de dormir dehors sous la pluie, c'est vraiment dur.
Avant de prendre la mer pour la première fois, eux qui viennent d'un pays enclavé où les montagnes sont reines, les deux adolescents afghans ont traversé l'Iran, puis la Turquie.
De là, nous avons payé un passeur pour prendre un bateau pour rejoindre Lesbos. Traverser la mer, c'était très dangereux. J'ai trouvé ça épouvantable. Sur le bateau, il y avait beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Nous étions très lourds. Je ressentais de la peur. De la peur et rien d'autre. Minute après minute, j'éprouvais cette angoisse. C'est impossible d'arriver jusqu'ici sans faire preuve d'un grand courage. Grâce à Dieu, les gardes-côtes nous ont finalement interceptés et amenés sur la terre ferme, à Lesbos.
Nous voici au camp de Moria, ancienne base militaire, transformée en centre d'enregistrement pour demandeurs d'asile. Des centaines de tentes de fortune, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'enceinte grillagée, font presque oublier la série de bâtiments préfabriqués qui constituent le camp proprement dit. Avec leur large portail, les portes d'entrée officielles maintiennent comme elles peuvent l'apparence d'un espace organisé sous contrôle. Le grillage du camp, éventré en de multiples points de passage, suggère en partie l'inverse. Seul lieu vraiment fermé, un centre de détention entouré de murs et de barbelés. S'y retrouvent en majorité des hommes seuls, ressortissants de pays où les demandeurs d'asile sont rares. Un Camerounais nous a ainsi dit y avoir passé plus de 2 mois. À la sortie de l'enceinte du camp, sous les oliviers, se trouve ce jour-là un énorme tas d'ordures. Un amas pestilentiel de sacs poubelles bleus et noirs et blancs, souvent éventrés, situés juste à côté d'une tente occupée par une famille de 8 Afghans. Parmi eux, une jeune fille de 15 ans, ex-basketteuse de son équipe nationale, qui décrit leur nouvelle vie à Moria.
Dès 5 heures du matin, on se retrouve à faire la queue pour la nourriture, la queue pour les médecins, la queue pour tout. On a des tas de problèmes. L'un des plus gros pour nous en ce moment, c'est à propos des déchets. Les sacs poubelles que vous voyez là, ça fait 3-4 jours qu'ils sont ici. Je ne sais pas s'ils n'ont personne pour ramasser les ordures ou s'ils ne veulent pas les ramasser. Mais en tout cas, il y en a trop et elles ne cessent de s'accumuler. Le fait est qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de familles ici. Donc jour après jour, il y a davantage de détritus. Et le résultat, c'est qu'on tombe malade.
Et il ne fait pas bon être en mauvaise santé à Moria, ce camp surpeuplé qui manque de presque tout, notamment de personnel soignant. Parmi les nouvelles arrivées ici depuis l'été, les Afghans sont ultra-majoritaires, en raison d'une guerre qui, chez eux, n'en finit pas, et du manque de travail. Ils peuvent moins qu'avant s'exiler en Iran, pays voisin dont l'économie souffre des sanctions américaines. Idem en Turquie, qui accueille déjà officiellement plus de 3,5 millions de réfugiés syriens et tolère de moins en moins la présence d'autres nationalités. Alors une partie de ces Afghans font cap vers l'Europe. Un périple semé d'embûches. L'adolescente évoque le cas de sa mère, qui a chuté du véhicule bondé de leur passeur en Turquie sur la route qui allait les conduire jusqu'en Grèce.
Ma mère est très souffrante, elle a des tas de problèmes, au cou, au dos, des tas. Mais les médecins disent, vous pouvez marcher, c'est bon. Il faut être mourant ici pour obtenir des soins.
Un avis que n'est pas loin de partager ce demandeur d'asile camerounais qui se présente comme un opposant politique dans son pays d'origine.
Quand vous êtes malade ici, si vous avez mal à la dent, ce n'est que du paracétamol qu'on vous donne. Vous avez mal à la jambe, on vous donne du paracétamol. Ici, le seul médicament, c'est le paracétamol.
Dans le camp de Moria, la vie des réfugiés oscille entre un espace restreint, saturé, et un temps qui leur paraît souvent infini. Un temps qui stagne, se répète et s'étire, entre files d'attente interminables et entretiens relatifs aux demandes d'asile. Nombre d'entre eux obtiennent ainsi un rendez-vous un an plus tard, voire deux, pour les derniers arrivés. Cocotte minute ou bombe à retardement, la question n'est pas de savoir quelle est la métaphore la plus adaptée, mais combien de temps ce camp de Moria peut fonctionner en l'état sans exploser sous le poids de la promiscuité et des tensions accumulées. D'après les habitants, presque pas un jour ne passe sans qu'une bagarre n'éclate. Et chaque communauté a tendance à rejeter la responsabilité de cette cohabitation houleuse sur les autres.
Nous, les Africains, on est calmes, mais c'est seulement d'autres communautés qui font du mal aux gens ici. Nos voisins ici, je ne sais pas, sont des Afghans. Ils se promènent avec des couteaux. Il vient, il te bouscule. Tu lui parles un peu comme ça et il sort le couteau. Il veut te poignarder et il vous donne des ordres. Or, nous tous, nous sommes des immigrés. Alors, c'est ça qui provoque la bagarre entre nous.
Pour cette jeune Afghane de 16 ans, qui critique par ailleurs un certain nombre d'attitudes irrespectueuses entre demandeurs d'asile, le problème vient surtout de ceux qui consomment de l'alcool.
Nous avons nos coutumes, chaque communauté a ses coutumes, et ces différentes coutumes ne sont pas compatibles. Certains vivent de manière très libre, ils boivent et tard le soir, ils sont sous. Ni les Afghans, ni les Arabes ne se comportent comme ça.
Pour d'autres, c'est encore une tierce communauté qui est à l'origine des troubles ambiants. En plus du racisme ordinaire et du repli communautaire, s'il y a bien un responsable à l'origine des tensions actuelles, c'est la surpopulation de ce camp de Moria. À l'entrée d'une tente où s'entassent une dizaine de migrants originaires de la République démocratique du Congo, l'un d'eux coupe les cheveux d'un ami, une lame de rasoir entre les mains, presque comme chez le coiffeur. Pas facile pourtant d'oublier les conditions précaires de la vie à Moria, un camp où sont présents de nombreux enfants, adolescents et jeunes adultes. Selon les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés, parmi les quelques 5000 personnes qui ont débarqué à Lesbos au mois de septembre, près de la moitié sont des mineurs, accompagnés ou non. Sous la tente, ce Congolais à peine majeur est venu seul. Il revient sur les raisons de son départ.
On est des jeunes. Imaginez des jeunes comme ça quitter leur pays à la recherche du bonheur. Si notre pays était dans de bonnes conditions, il y avait du travail, toutes les conditions étaient réunies, on n'allait pas quitter notre pays pour venir ici. On est venu ici parce que chez nous, ça ne va pas.
Et d'enchaîner, abattu sur tout ce qui dysfonctionne au sein du camp de Moria, où il est bloqué depuis 3 mois.
Pour aller chercher la nourriture, on est plus de 10 000 personnes pour faire la queue. Parfois, tu es là, tu fais la queue, tu arrives, on te dit qu'il n'y a plus la nourriture elle est finie, il n'y a pas d'eau, qu'est-ce que tu vas faire? Tu rentres, tu dors et le lendemain, tu continues, c'est toujours comme ça. C'est plus que l'enfer.
Les propos du jeune Congolais font comme écho aux enfers de la mythologie grecque, là où Tantale est condamné à avoir toujours faim et soif. Malgré la proximité de nourriture et d'eau, ceux-ci se dérobent chaque fois qu'ils s'en approchent. L'enfer, c'est aussi le mot utilisé par un représentant de l'ONG Médecins Sans Frontières pour désigner les conditions de vie à Moria après un incendie meurtrier fin septembre. Moria, c'est l'enfer. Là encore, c'est l'expression que l'on pouvait lire sur le carton de demandeurs d'asile qui sont allés jusqu'à manifester à la suite de ce même incendie. À Moria, l'heure n'est plus aux récits mythiques, mais à des contes cruels modernes. Comme celui que nous raconte cet Érythréen de 26 ans, qui s'offre une respiration à quelque distance du camp. Notre homme est assis sur le bord de la route, à l'ombre d'un arbre, sur un muret placé derrière une rampe de sécurité, censé prémunir les véhicules de toute sortie de route. Les yeux écarquillés, il parle seul. De loin, on le croirait fou. En réalité, l'homme récite l'alphabet grec. La veille, il a obtenu une place dans une école de langue où enseignent des bénévoles.
Iota, Kappa, Lambda, Mi, Ni, Xi, Omicron, and so on.
Le jeune homme au sourire désarmant se dit pacifique. Il ne voulait pas d'une vie de soldat dans un pays, l'Érythrée, qui impose l'équivalent d'un service militaire à durée indéterminée. Une situation que l'ONG Amnesty International assimile par ailleurs à du travail forcé. Il a donc d'abord fui au Soudan, puis il a pris la route de l'Europe, qui l'a mené jusqu'ici, un t-shirt blanc qu'il peine à maintenir propre sur les épaules et un cahier d'écolier sur les genoux.
Vous comprenez, ici, l'air est gratuit, donc je prends un bol d'air. Dans le camp, la situation n'est pas bonne. Il y a des tas de gens qui crient ou qui font du bruit. Je n'arrive pas à comprendre ce que je lis. Donc pour pouvoir me concentrer, je viens ici. Je suis seul et je m'exerce avec ce qui se trouve ici. Comme cette glissière en acier. Je lui parle, la glissière me dit « alpha » et je réponds « alpha ». Ou bien sinon, je parle à l'arbre. Je dis à l'arbre « dis alpha ». Pour moi, c'est comme si l'arbre était une personne vivante. Vous comprenez? Quand je dis « alpha », l'arbre répond « alpha ». C'est comme ça que je l'imagine, comme un écho. Alpha, alpha, vita, vita. Donc je communique avec l'acier, avec l'arbre, avec quelqu'un.
Ils sont nombreux, les réfugiés de Moria, à se sentir seuls, voire abandonnés. Certains s'interrogent. À quoi bon parler aux journalistes de passage?
C'est malheureux, mais personne ne nous entend. Les journalistes qui viennent ici, ils nous interviewent, ils prennent des photos. Mais malheureusement, comme vous le voyez, les choses ne changent pas.
Pour que les choses changent, il faudrait notamment, selon Philippe Leclerc, représentant du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies à Athènes, multiplier les transferts de demandeurs d'asile depuis les îles vers la Grèce continentale et donc mettre en place une politique de logement adaptée. L'actuel regain de migrants n'a pour l'instant pas grand-chose à voir avec 2015, quand près d'1 million de réfugiés sont arrivés en Europe. Depuis, certaines frontières ont été fermées, d'autres renforcées, comme en Turquie, et l'Union européenne a mis en place une politique de hotspot, c'est-à-dire des camps d'enregistrement. Leur but, maintenir les migrants entrés illégalement en Europe sur leur lieu d'arrivée, en attendant l'examen de leur demande d'asile. La grande différence, c'est qu'en 2015, la plupart des migrants ne faisaient que passer par la Grèce. Aujourd'hui, bien que beaucoup moins nombreux, ceux-ci sont donc forcés de s'y arrêter, et un camp comme Moria, totalement sous-dimensionné, est à l'agonie. Philippe Leclerc.
Il y a plus d'un an, la situation s'était largement améliorée, avec un nombre de populations qui, certes, à Moria, était un peu plus supérieur que ce que la capacité du camp. Mais on avait vu des équipes qui se mettent en place de la part des autorités, des ONG qui travaillent, des transferts qui allaient régulièrement vers le continent pour que les demandeurs d'asile puissent continuer leur procédure. Donc il y a plus d'un an, la normalité de gestion du camp de Moria était en chemin. Mais depuis plus d'un an, la situation a changé et la capacité de réponse qui était prévue des autorités, notamment sur le plan de la santé, n'est absolument pas au rendez-vous puisqu'ils n'ont pas été capables de recruter à temps les médecins, les psychologues, les interprètes nécessaires pour gérer une situation comme celle-là, encore moins avec 5 fois la population de ce camp.
Et le représentant du HCR de préciser :
je ne pense pas que cette crise soit irrémédiable, mais il faut que les capacités de réception sur le continent soient augmentées rapidement, car c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les personnes ne peuvent pas être transférées vers le continent. 50 000 places ont été créées en juste 3 ans, 25 000 en appartements, plus de 20 000 en camps sur le continent et 5 500 places dans les hôtels. Mais vous avez plus de 94 000 demandeurs d'asile et réfugiés, dont plus de 30 000 sur les îles aujourd'hui. Il est nécessaire de rapidement augmenter la capacité de réception sur le continent, dans les villes. Et pour cela, à la veille de l'hiver, il n'y a pas beaucoup de solutions pour 30 000 personnes. Il faut à nouveau utiliser les hôtels qui sont vides pendant la période hivernale afin de loger les demandeurs d'asile. Donc il y a des solutions, mais elles sont nécessaires d'être mises en œuvre très rapidement compte tenu de la situation qui se détériore et le nombre de personnes qui continuent d'arriver jour après jour sur les îles.
Les feux médiatiques sont à présent braqués sur Moria, le plus grand camp d'Europe, où les arrivées depuis la Turquie sont aussi les plus nombreuses depuis cet été. Mais la situation est également préoccupante et explosive dans les 4 autres camps officiels des îles grecques, à Kos, Aleros, Akios ou à Samos, où les capacités du camp de Vati sont près de 10 fois inférieures au nombre de réfugiés sur place. Un incendie mi-octobre a matérialisé la tension qui y règne. Comme ce Congolais de Moria, les demandeurs d'asile ont souvent le sentiment d'être traités comme du bétail.
Les gens arrivent presque tous les jours. Il n'y a pas assez de place pour les gens. Les gens dorment dehors. Il y a des gens qui dorment à l'intérieur. Mais il y a aussi des gens qui sont dehors. Vous-même, vous avez vu ? Ouais. Donc, ça ne change pas. Nous demandons un changement. Donc, c'est ça que nous voulons. Parce que nous sommes des immigrés. Il faut nous traiter comme des humains. Nous ne sommes pas des animaux pour nous traiter comme ça. Donc, c'est ça qui nous fait vraiment mal.
À l'heure actuelle, quelques demandeurs d'asile ont été transférés du camp de Moria vers le continent, mais pas encore en nombre suffisamment significatif pour que ce camp devienne vivable. Aujourd'hui, la Grèce planche surtout sur une réforme qui faciliterait les expulsions. Athènes a ainsi officiellement annoncé vouloir renvoyer 10 000 migrants l'an prochain en Turquie. Pour le contexte, près de 2 000 personnes y ont été renvoyées depuis 2016. Pour les demandeurs d'asile, il reste peu de choses à faire à part attendre. Attendre que l'État grec et l'Union européenne s'intéressent sérieusement à la situation de ces hotspots inadaptés, que la surpopulation menace d'embrasement et de catastrophes sanitaires.
Aujourd'hui, je vais attendre, je suis la procédure ici. Si j'obtiens l'asile, tant mieux. Si je n'obtiens pas l'asile, je vais essayer autre chose pour pouvoir rester sur le territoire, parce que je ne vais pas non plus rentrer pour mourir. De toutes les façons, plutôt que de mourir, ce serait mieux pour moi de mourir ici. Au moins, si je meurs ici, j'aurais essayé.
Dans la mythologie grecque, Orphée était un chanteur sans égal. Après sa mort violente par décapitation, sa tête, jetée dans un fleuve, dériva en mer jusqu'à l'île de Lesbos. La légende veut que de sa bouche émanaient encore des chants remplis d'une intense mélancolie. À Moria, sur cette même île de Lesbos, c'est aujourd'hui par la bouche d'un réfugié afghan, renvoyé une première fois de Belgique vers son pays en guerre et de retour sur la route de l'exil, que cette mélancolie prend corps.
Moria, le camp malade de l'Europe, un grand reportage de Joël Bronner, réalisation Pierre Chaffangeon, un magazine à retrouver sur le site de RFI.